Chers amis, Hachem Alechem Tiahyu, les Orechem Tovim Shalim Nehemim. Nous allons nous pencher sur Megillat Esther et essayer d'analyser quelques points, les points qui sont difficiles, qui sont. Et pour comprendre comment Akadosh Baruch Hu dévoile sa providence, sa Hashgacha sur un Israël. L'un des points les plus importants, c'est le déclenchement de la colère de Haman. Donc il est dit que Mordechai a dévoilé, a déjoué le complot contre le roi. Donc il est dit au chapitre, à la fin du deuxième chapitre, Bayamim ha'em ou Mordechai yoshev b'shar ha'melech. Donc, quand en ces temps-là, donc Mordechai est dans, il se tenait à la porte du roi, donc dans le palais, il entendit deux eunuques, Biktana vateresh, qui était en train de concevoir un attentat à l'encontre du roi. Vayvalkshu lishloach yad b'melech Ahashverosh. Mordechai les a entendus, donc il va transmettre l'information. Esther va transmettre à son tour l'information au nom de Mordechai. Donc ils vont faire une enquête et les deux coupables vont être condamnés à mort. Et cet événement-là va être inscrit dans le Sefer d'Ivrei Hayamim Lifnei HaMelech. Donc dans le livre va être consigné cet événement-là. Ce fait va être consigné dans le livre des annales du roi. Et après cela, à Haradevarim Haele, donc au chapitre 3, à la suite de ces événements, le roi Ahashverosh va placer Haman au plus haut, à la plus haute, va lui confier la plus haute dignité. Et va lui placer un siège au-dessus de tous les seigneurs attachés au roi. Donc et là il va décréter le kolav de Hamelech asher b'shar Hamelech korim mishtahavim lehaman ki chen tiva lo Hamelech. Donc il va ordonner que tous les serviteurs du roi qui sont à la cour royale doivent s'agenouiller et se prosterner devant Haman, car c'est là l'ordre qui a été donné par le roi en l'honneur de ce personnage. Et là, il est dit à la fin du verset, il est dit « O Mordechai lo ikra velo ishtahave » Mordechai ne s'abstenait de s'agenouiller ni de se prosterner. La question qui se pose ici, c'est qu'il y a une erreur, entre guillemets. C'est Mordechai qui sauve le roi, et c'est Haman qui obtient la récompense. Alors ça paraît a priori quelque chose de pas très normal. Et à cela, il est dit que Mordechai ne s'agenouille pas, il ne se prosternait pas, donc il ne le saluait pas, il ne se soumettait pas à la consigne, et il ne faisait pas comme tout le monde. Et alors, la question qui se pose, est-ce qu'il avait le droit de faire cela? Est-ce que le fait de le provoquer, parce que cela va être remarqué, les serviteurs du roi vont lui dire pourquoi tu ne te prosternes pas. Voyons-moi, avdi amelech asher b'shar amelech Mordechai, madou ata over et mitzvat amelech, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Alors ils lui ont répété ça. Voyez, Béomram, et là, Vyom, jour après jour. Donc, c'est pas une seule fois qu'il n'a pas fait. Ils lui ont répété, ils l'ont remarqué. Et ils lui ont répété cela à plusieurs reprises. Véloshamalien. Alors, il n'a pas tenu compte de leurs remarques. Alors, ils le dénoncèrent. Donc, ils ont dit, ils ont transmis ça à Haman. Ils regardent. Haman, regarde, Mordechai ne se prosterne pas devant toi. Il transgresse l'ordre du roi. Et quelle était la réponse? Vaya guide les Amans, les Rotes, y a un doute d'ivré Mordechai, qui guide les Amans, cher ou Yehudi. Donc il leur a dit qu'il était juif. Donc le fait qu'il soit juif, est-ce que c'est un psor, donc ça le dispense de se prosterner, donc il n'est pas concerné par l'ordre du roi, ou bien c'est le fait qu'il soit juif, c'est que il se permet, donc en vérité il était soumis et il provoque. Donc le fait qu'il soit juif peut être compris de deux manières. Est-ce que c'est un provocateur, quelqu'un qui se comporte pas comme tout le monde, ou bien c'est quelqu'un qui est dispensé du fait qu'il soit juif, c'est une qualité qu'il n'est pas concerné par le décret royal. Donc il est à noter, nous disent les Mefarshim, que Aman lui-même ne s'est pas aperçu de cela. Alors, Aman était au-dessus, donc il regardait, il était d'une suffisance extrême, donc tout le monde se prosternait, lui il regardait même pas les gens. Donc il était au-dessus de tous, et quand on lui a fait la remarque, donc il a observé, donc il a porté son attention sur l'attitude de Mordechai, et il s'aperçoit que ce monsieur-là ne se prosterne pas. Donc à ce moment-là, il se met en colère. Voyar Aman qui en Mordechai korea mishtah avelo. Voyimale Aman hema. Donc Aman s'est aperçu que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Donc ça veut dire qu'il s'est mis, il s'est, il a, il au bout d'un certain temps, il s'est mis devant lui. Donc il a voulu le provoquer à son tour pour voir véritablement s'il ne. Donc il constate que Mordechai ne se prosterne. Pourquoi? Parce qu'il est Yehudi. Et là, il est dit, Vaïbez be'enav lishloach yad de Mordechai levado. Donc il jugea que c'était insuffisant pour lui. Ce n'est pas de sa qualité. Il ne lui sied pas de tuer seulement Mordechai, de s'en prendre uniquement à Mordechai. Mais Aman a voulu décider de faire. D'utiliser cette occasion qui lui est donnée pour s'en prendre à tous les juifs. Donc il va faire le fameux Goral et il va mettre son projet en place et va décider de détruire Amisraël. Donc est-ce que Mordechai avait le droit de se comporter de la sorte? Donc Chazal, est-ce que c'était un vrai? Est-ce qu'il y avait une véritable interdiction pour Mordechai de se prosterner? Et à supposer que l'interdiction, comme nous disent les Chazal, que Aman avait placé sur son vêtement une effigie d'une idole, alors à combien même l'aurait-il fait, Mordechai aurait dû agir avec plus de discernement et d'intelligence, et éviter. Donc, quand même, ne voulait-il pas se prosterner, il aurait pu éviter de se mettre dans une situation dangereuse et de provoquer le pouvoir. Donc, il aurait pu être, se dispenser, se cacher, se mettre de côté, ne pas être présent à l'heure où Aman passait par les parvis et par les dépendances, là où il se trouvait. Donc et là, on voit que Mordechai va être un provocateur, va vouloir provoquer Aman. Ça, c'est le premier point. Donc, il est intransigeant. Mordechai se comporte de manière intransigeante. Est-ce qu'il a bien fait de se comporter de la sorte? De mettre non seulement sa personne en danger, pour quelque chose qui n'en valait pas la peine, et ça va bien au-delà de sa personne, il met en danger tout un Israël. Et on verra plus tard, après que le décret a été prononcé, il est dit plus tard, Mordechai Yada au chapitre 4, il y a marqué Mordechai Yada et Kol Asher Na'asa, Mordechai a eu connaissance de tout ce qui se tramait, de tout le projet. Donc il déchire ses vêtements, il se met un cilice, Il sort, il crie dans la rue, et il va jusqu'au palais de Esther. Et là, quand il raconte les événements à Hathach, au confident de Hathach étant le confident de Esther, alors qu'est-ce qu'il est dit? Alors, il est dit ici quelque chose de très intéressant. Alors, il est dit, « Vayaged lo Mordechai kol asher karahu. » Mordechai lui fit part de tout ce qui lui était advenu. Ve'el parashat ha-kesef. Et aussi l'histoire, la paracha de la, enfin, l'histoire du montant, de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi, au trésor du roi, au trésor royal. Et ici, Karaou, Kara lo, en vérité. Tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Mordechai raconte qu'il est la cause de tout cela, que c'est de son fait, de son intransigeance, de son manque de lucidité que cela arrive. Donc c'est comme si qu'il est, il raconte à Esther que, elle lui dit, pourquoi tu déchires tes vêtements? Pourquoi tu hurles au milieu? Que se passe-t-il? Il dit, c'est de ma responsabilité, c'est ma faute, c'est ce qui se passe est de ma faute pratiquement. Je suis le responsable de tout ce qui s'est, de tout ce qui se passe. Et à ce sujet, la Gemara a dit, la Gemara d'Af Yudbet, à la fin de Yudbet, Yud Gimel, Amudbet, la Gemara elle dit, elle est d'Oreshet, la Gemara commente le pasuk Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini. Alors, la Gemara, elle oppose que signifie Ish Yehudi, et à la fin, il est dit Ish Yemini. Donc, ça veut dire que Mordechai, il est de Yehuda, et à la fois aussi de Binyamin. Alors, il y a plusieurs commentaires. Il y a un premier commentaire qui commente ce verset de manière favorable à Mordechai. Et Rava dit, Rava Amar, Knesset Israël Amra, Lehidar Gissa. Donc, au lieu de commenter, Rava interprète ce passouk en disant que c'est l'Assemblée d'Israël qui interprète ce verset de manière négative. Il dit, Réou, le peuple d'Israël dit, observez, Ma'asali, Yehudi, regardez ce que m'a fait ce juif, donc de la tribu de Yehuda, au Mashilemli Yemini, et qu'est-ce que le Yémini, celui qui sort de la tribu de Binyamin, a causé? Qu'est-ce qu'il m'a fait payer? Ma'asali Yehudi, qui c'est le Yehudi en question? De la carte de David le Shimei ben Gera. De Tialed Miné, Mordechai. On dit, regarde ce qu'il a fait David. David qui est Yehudi, qui est la tribu de Yehuda. Donc à un moment donné, David fuit devant Shaoul. Et il est avec sa troupe. Et sort à sa rencontre Shimei ben Gera qui est de la tribu de Binyamin. Et il insulte. Il le maudit. Il lui dit, tu te rebelles contre ton maître. Donc, a priori, Shimei ben Gera était passible de mort parce qu'il a commis un crime de lèse-majesté. Combien même David n'était pas encore officiellement roi, mais il a déjà été roi. Et il était déjà dans la position d'avoir un pouvoir quelconque. Donc, il a commis un crime de lèse-majesté. Et David empêche les soldats de tuer, de mettre à mort Shimei ben Gera. Donc ici il maudit, c'est Dieu qui lui a dit de maudire, etc. Donc le pasuk dit, regarde ce qu'il a fait ce Yehudi. De l'okat l'il David le Shimei de Itel Edmine Mordechai de Mikane Be Haman. Donc il a, Haman a été provoqué, ce Yémini là, ce Mordechai là, à cause de David, qui s'est abstenu, qui a laissé vivre, parce qu'il a voulu faire du bien, entre guillemets. Il a voulu être miséricordieux vis-à-vis de Shimei ben Gera. Donc il a laissé en vie Shimi Ben Guerra, et de Shimi Ben Guerra est né Mordechai, qui a mis Israël dans une tourmente. Des Mekane Be'aman. Rachid dit, Leïdar Gisa, le Tsa'aka, Le peuple d'Israël se plaint du fait que David n'a pas condamné à mort Shimi ben Guerra, et c'est de sa faute, entre guillemets, que Mordechai est venu au monde. Et ce Mordechai-là, il a mis en danger le Ham Israël, du fait de son intransigeance et du fait d'avoir voulu provoquer la colère. Il a provoqué la colère de Haman. Et après, le passouk poursuit et dit, la Gemara poursuit et dit, ou machilem li yemini. Maintenant, le yemini aussi, il s'est mal comporté. Pourquoi? De la katle Shaoul et Hagag. D'autre côté aussi, Shaoul, il combat. Shaoul fait la guerre. C'est la Haftara que nous lisons le Shabbat de Zachor. Et Shaoul fait la guerre à Amalek, sous l'ordre. Shmuel lui ordonne de tuer tout le monde et il laisse Agag vivant. Et de ce Agaga va venir au monde Haman. Demekanebe Haman. Ou machilem li yemini de lokat li Shaoul et Agag, dit-elle Edmine Haman, demetzaer le Israël. Donc tout ça, c'est donc le passouk qui est a priori à l'avantage. Commenté normalement à l'avantage de Mordechai, et ici commenté à son désavantage. Non seulement on reproche à David de ne pas avoir condamné à mort Shimi Ben Guerra, et on reproche à Shaoul de ne pas avoir tué Agag. Donc il y a ici Ishimini. Ishiodi, sont les deux sources du problème qui va arriver à Amisraël au moment de la Megillah. C'est d'une part le reproche est fait à David, qui a permis la venue au monde de Mordechai, et d'autre part le reproche est fait à Shaoul, qui a permis la venue au monde de Haman, et les deux vont se confronter. Et c'est leur. La relation entre ces deux personnages qui va mettre Israël dans la tourmente la plus totale, le désespoir le plus complet. Et ici, dans cette relation, cette rencontre est indiquée quand Mordechai va achara devarim haele gidal hamelech et haman. Donc après que le roi est placé Haman au-dessus de tous ses serviteurs. Et là, il est dit que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Il ne fait ni la révérence, ni la prosternation. Donc il lui manque de respect. Et il le provoque. Alors il aurait pu faire semblant, le saluer, faire semblant, donc il peut se prosterner. Voilà que Yaakov s'est prosterné devant Esav. Donc il n'y a pas de. Avraham s'est prosterné l'ifné Amaharet. Il peut se prosterner, faire semblant. Et il aurait pu aussi, s'il ne voulait pas se prosterner devant lui, être absent. C'est-à-dire se cacher au moment où Haman passe dans le palais. Donc il se met de côté, il est pas présent. Mais lui, il choisit d'être là, d'être présent et de le provoquer. Donc ici, il y a une responsabilité certaine de Mordechai par rapport aux conséquences de son acte. Vayagedlo, Mordechai et kol asher karahu. Il dit, Mordechai fit part à Hatar de tout ce que lui-même a causé, qu'il était le responsable de toute cette catastrophe. Et alors, nous allons donc c'est l'intransigeance de Mordechai. De l'autre côté, qu'est-ce que Mordechai demande à Esther. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit un peu plus loin. Alors, il est dit à mon, alors que donc Mordechai indique à Esther, Nathan lo, le harot et Esther ou la guide là ou le sabota, le alavo et la melech, le itanen lo. Donc, il lui dit, il lui remet, il lui donne l'ordre, il donne l'ordre, il lui recommande de transmettre à Esther d'aller se rendre chez le roi pour supplier, pour solliciter la faveur et pour essayer d'intercéder en faveur de Ram Israël, d'annuler ce décret. Et là, Esther, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il lui dit que ça fait déjà un mois. Donc, cette idée d'aller devant le roi indique qu'il lui enjoint de faire un péché. Donc, il y a ici un problème. Esther est une femme mariée. Elle est prise dans la maison du roi. Donc, quand le roi désire avoir un rapport avec elle, donc elle subit la volonté du roi, donc elle est passive, donc elle ne commet pas de faute. Mais dans ce cas-là, elle va aller elle-même susciter, quand elle-même va à la rencontre du roi pour trouver grâce à ses yeux, donc c'est elle qui se met dans la situation de susciter le rapport. Donc elle est active. Et là, c'est une faute. La Gemara nous dit que c'est une faute. Et normalement, si elle est passive, alors elle ne commet pas d'impair, mais si elle est active, elle suscite le rapport, c'est elle qui invite le roi à avoir un rapport avec elle, donc c'est elle commet une faute. Et à ce sujet, il est dit, Kasher avadeti, donc elle fait une faute. Et Mordechai, elle, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond, il dit, ça fait que, voilà, que je n'ai pas été convoqué depuis un mois. Donc ça veut dire que il n'est pas nécessaire, elle transmet à Mordechai, elle veut dire à Mordechai que ça fait un mois qu'elle n'a pas été invitée dans les appartements du roi, qu'elle n'a pas été convoquée. Donc ça va pas tarder. Donc d'ici quelques jours, certainement le roi va me convoquer. Donc, et alors je pourrais lui intercéder en faveur d'Israël. Donc, pourquoi être le faire agir de manière active alors qu'on peut attendre que c'est le roi qui intervient, qui convoque? Et c'est à ce sujet, il est dit, et là, Mordechai la met en garde. Et là, il lui dit, donc, c'est ce qui a marqué ici. Elle lui dit d'abord, en premier lieu, il dit tous les serviteurs du roi et la population, tout le monde sait que celui qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, alors il est passible de la peine de mort. Si le roi ne daigne pas lui lever, l'inviter à avancer, il est passible de mort. Donc je risque d'être. Ça fait un mois que je n'ai pas été convoqué, je risque de mourir. Donc cette idée d'aller implorer le roi n'est pas opportune, une bonne idée. Et deuxièmement, je n'ai pas été convoqué depuis. Donc ça peut se faire d'une autre manière. Et là, Mordechai lui dit, et là, Moyagido le Mordechai dit vrai, c'est-à-dire. Donc on a transmis à Mordechai cette idée, ces paroles de Esther. Voyons mais à Mordechai, et Mordechai dit de répondre à Esther. Alte dami ben afshech limalet bet amelech. Ne crois pas que tu pourras sauver ta vie dans le palais royal. Tu seras la seule, donc tu te désintéresses du sort de Ham Israël. Parce que donc, il ne faut pas se bercer de cette illusion-là. Ki'im aharesh taharishi ba'et azot. C'est parce que si tu persistes à garder le silence et ne pas intervenir à ce moment-là, maintenant, là, alors il dit, Reva ve'atzala ya'amod le'yehudim imakom acher. Il dit, la délivrance et le salut viendront pour Israël de d'ailleurs, alors que toi et la maison de ton père, vous risquez de disparaître, de périr. Donc ici, il y a encore une question encore plus forte. Donc Mordechai est certain que la délivrance va, il garantit, donc c'est ce qu'il dit à Esther, il dit « Reva ve'atzalai amod la'yodim et makom aher » Si, véritablement, cette expression est vraie, que la délivrance et le salut surgiront pour Am Israël d'ailleurs, d'autre part, donc à Kadosh Baruch Hu, la makom. Alors pourquoi mettre Esther dans une situation où ordonner à Esther, obliger Esther à aller commettre un péché, un péché grave? C'est un des trois péchés capitaux. Il la met dans une situation désespérée, difficile. Alors qu'il est certain que la délivrance va venir d'ailleurs. Est-ce que cette démarche est autorisée par la Torah? Est-ce qu'il est possible de mettre une femme de mettre une femme en danger d'abord et deuxièmement la souiller, la mettre dans une position de souillure, de transgression, de quelque chose d'abject pour sauver leur âme Israël, pour sauver les autres. Et ça, Mordechai, donc c'est ça ici, sur ce point-là que le vicouach, il y a une discussion halachique entre Esther et Mordechai, et Mordechai insiste pour qu'elle aille immédiatement, qu'elle agisse, et que c'est a priori permis, c'est moutard, c'est mitzvah de faire une chose pareille, de commettre ce péché, de commettre cette transgression, de transgresser la Torah pour sauver Am Israël dans cette situation-là. Donc on voit que Mordechai, il a une deux facettes. Quand il s'agit de lui, il est intransigeant vis-à-vis de l'Halakha. Donc il ne se prosterne pas, il provoque et il dit « Ani Yehudi, je suis kofer ba'avoda zara » donc toutes sortes de ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à l'idolâtrie. Je me prosterne pas devant un tel personnage qui s'est pris pour un dieu, etc. Et de l'autre côté, il ordonne à Esther d'aller commettre un péché, une transgression, pour sauver Am Israël. Donc il y a ici deux facettes qui a priori est contre. Donc, pour lui, il est Mahmir, et pour elle, il est Makil. Donc, c'est assez étonnant, cette démarche. Et Esther, donc, elle prend sur elle d'agir, de le faire, et elle lui dit, avant ça, il faut prier, il faut jeûner, donc, il faut implorer la miséricorde divine de telle sorte que nous puissions obtenir la grâce devant Akadosh Baruch Hu, que notre entreprise, que notre projet réussisse, que ce soit efficace, que l'on trouve grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu et du roi. De telle sorte que le projet de Haman soit annulé. Donc c'est ça l'idée il est fort possible que à Mordechai, en agissant de la sorte, considère qu'il répare son erreur. Parce que quand il envoie Esther dans cette situation, en vérité, c'est il perd sa femme, il perd son épouse là. Donc il répare son impair. Son intransigeance est réparée. Donc c'est pour ça qu'il insiste que il y a lieu d'agir de telle sorte que nous sommes prêts à transgresser la Torah pour obtenir le pardon, pour obtenir la réparation et l'annulation du décret. Parce que c'est l'intransigeance de Mordechai qui a suscité le décret Donc, il convient à présent de trouver, de montrer qu'on est prêt à transgresser la Torah pour obtenir la délivrance. Donc, il y a une réparation de l'intransigeance. C'est ça ce qui est indiqué ici. Quand bien même, que Akadosh Baruch Hu, Arbe Shluchim Lamakom, il pourrait obtenir, qu'on pourrait, Akadosh Baruch Hu, il pourrait faire surgir la délivrance d'ailleurs, sans que nous ayons à agir. C'est-à-dire que c'est le fait qu'ils disent Revar ve'atzala ya'amod le'yodim makom acher signifie que on est conscient que Akadosh Baruch Hu, il y a d'autres moyens. Dieu Hayad Hashem Tiksa, il y a d'autres moyens de parvenir à la délivrance. Mais ici, notre devoir, c'est de réparer nos erreurs. Donc, en tant que dirigeant, c'est ça la grandeur ici, c'est ça, a priori, la grandeur de Mordechai, c'est qu'il met Esther dans une situation. Esther et Mordechai sont deux éléments, deux personnages qui se complètent. Et tout ce que Esther agit, fait, subit, c'est Mordechai qui le subit aussi. Donc Mordechai, en mettant Esther dans cette situation-là, d'aller être souillé par Ahasvéros, il répare son intransigeance. Il répare son inflexibilité. Il répare ce qu'il a causé. Quand bien même, Akadosh Baruch Hu pourrait sauver Israël de par ailleurs. Donc, et c'est cette idée-là qui est fortement ancrée dans la Megillah. C'est la partie la plus difficile de la Megillah. C'est le moment où on est dans une situation de tourmente et d'obscurité. Et l'action des hommes doit permettre de faire jaillir la lumière. Et c'est ça l'idée qui est essentiellement essentielle dans cette démarche. Et c'est justement le fait qu'ils aient agi de la sorte que on voit que à la fin de l'histoire, la Megillah dévoile la grandeur de la providence et de l'Hashgaha et du Nes. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'amen.